Une seule santé, c'est la traduction hein, de One Health. Il y a d'autres termes qui sont employés comme Planetary Health, par exemple. Il y a des débats sur quelle est la juste façon de parler de la santé comme une. Que les santés sont interdépendantes. Et pourtant, nous vivons, comme il a été dit, mais je le redis, pour que ce soit vraiment partagé de tous, la 6e extinction de masse de la biodiversité, due à nos pratiques. En France, il y a 2000 espèces parmi les espèces mondiales qui sont en voie d'extinction immédiate. Là, il y en a 2000 qui sont sur notre territoire français. Il y a 8 millions d'espèces actuellement dans le monde qui sont en extinction également immédiate. Là, dans les prochaines années, on va les perdre. Et parallèlement à ça, nous avons un taux de cancer qui augmente, qui est faramineux. À la fois ceux qui sont hormonodépendants, cancer du sein, cancer de la prostate, sont en train de se développer d'une façon qui sont comme une mesure. D'autres cancers, bien évidemment, et on se rend compte des liens avec notre environnement. Le cas en ce moment qui est le plus spectaculaire, c'est le cadmium, peut-être que vous en avez entendu parler. C'est à la fois, des parties métalliques, à la fois c'est un perturbateur endocrinien, qui est naturel, qui se trouve dans le gisement des sols, mais qu'on peut augmenter par les engrais phosphatés. Et qu'est-ce que ça produit? Eh bien, une incidence sur les cancers qui va jusqu'à 83% de plus de surmortalité de cancer avec surabsorption de cadmium qui se trouve dans les végétaux que nous consommons tous les jours, notamment en France, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres pays, mais on pourra en reparler si vous voulez. C'est simplement pour vous dire que les liens entre santé et environnement, on arrive à les faire, on voit bien. Entre la perte de biodiversité et notre situation sanitaire, il y a bien là un lien direct. Alors, comment se fait-il que nous n'arrivons pas à véritablement l'intégrer? C'est-à-dire qu'en théorie, on est d'accord, mais en pratique, on a un peu du mal. En philosophie, on a tendance à essayer de voir comment la pensée s'est construite initialement, et cette pensée-là, c'est penser que la santé humaine est indépendante des autres santé. C'est quelque chose qui est construit. Comme tout ce qui est construit, on peut le déconstruire. On est en train d'essayer de le faire aujourd'hui, toutes et tous, mais ça va demander du temps. On est au XVIIe siècle. Notre bon René Descartes crée un courant de pensée. Il n'est pas seul. C'est pas la responsabilité d'un seul homme. Mais il est significatif parce qu'il va véritablement poser un certain cadre, un certain paradigme, qui est totalement opposé à l'idée d'une seule santé. Donc pour arriver à comprendre ce qu'on doit faire sur une seule santé, il faut comprendre de quoi on doit se déprendre. Le dualisme cartésien. Alors, le terme est un peu complexe. Globalement, c'est l'idée de deux choses. Première chose, la nature devait être l'objet d'un désenchantement. Pour Descartes, il s'agissait absolument de poser les bases de la science et donc d'arrêter avec les superstitions et les croyances qui étaient considérées comme problématiques parce qu'on voulait arriver à poser un cadre de ce qu'il appelait la vérité, des absolus. Et c'est grâce à ce courant de pensée qu'on a la science qu'on a aujourd'hui et les techniques qui s'en suivent. Mais ce faisant, en voulant comprendre mieux la nature, bientôt, il s'est agi de mieux la maîtriser. Or, le lien n'était pas nécessaire. On peut vouloir comprendre sans vouloir maîtriser. Et puis, au-delà d'aller maîtriser, on a voulu exploiter. C'est ce qu'on entend quand on parle d'exploitation agricole. Même des paysans aujourd'hui vous parlent de leur exploitation. Les termes qu'on emploie sont vraiment parlants sur le rapport qu'on entretient au vivant. La petite phrase de Descartes, qu'on connaît tous bien, qu'on a au moins un petit peu entendue, c'est qu'il faut qu'on se rende comme maître et possesseur de la nature. Ce qu'on oublie, c'est la suite de la citation de Descartes. Alors on dit oui, c'est quand même très violent cette idée de se rendre comme maître et possesseur de la nature. Mais il ne dit pas qu'il faut se rendre comme maître et possesseur de la nature, pour le plaisir de l'être. Il y a un but à ça. Et Descartes nous dit, ce n'est pas simplement pour avoir du confort, ce n'est pas simplement pour avoir ce qu'on appelle une infinité d'artifices qui nous permettrait de jouir de ce que produit la nature. Non, il nous dit, c'est d'abord et avant tout pour la santé. Si on veut se rendre comme maître et possesseur de la nature, c'est parce que la santé, nous dit-il, est le premier bien et le fondement de tous les autres biens en cette vie. Voilà ce qu'il écrit en 1937 dans son discours de la méthode. En fait, 1637, je ne sais pas si j'ai bien dit la date. Pardon. À ce moment-là, il est en train de poser les bases de ce dont on est en train de discuter aujourd'hui. La santé est le premier bien. Sans ça, il n'y a même pas de société. Simplement, il fait un deuxième geste en plus de dire qu'il faut désenchanter la nature, qu'il faut y mettre de la surrationalité. Son deuxième geste, de dire que l'homme doit s'extraire de la nature pour pouvoir mieux la maîtriser et qu'il n'en fait donc plus partie, avec un idéal qui est un idéal d'autonomie, ce que Jean-Philippe Piron, le philosophe, appelle une autonomie exaltée. L'homme va être très content parce qu'il peut dominer tout ce qui se trouve dans le monde. Et ce que Descartes appelle la res extensa, c'est-à-dire le monde, la réalité étendue, c'est tout ce qui n'est pas humain et cela au même niveau. Un animal, une plante, une chaise, c'est la même chose. Notre spécificité humaine devrait, nous dit-il, nous engager à maîtriser l'ensemble de ces êtres qui ne sont que des objets. À partir de cette pensée-là, il va être très difficile pour nous d'étendre notre considération aux végétaux, aux animaux, puisque tout de suite, quand on essaye de dire considérons un peu les autres vivants, on nous dit, mais attendez, vous n'allez quand même pas toucher à l'importance de l'homme. Ce que j'amène ici, c'est l'idée que le premier frein à une seule santé, c'est la peur de perdre quelque chose de notre spécificité. Et si on s'occupe des animaux, si on s'occupe des végétaux, on ne va plus mettre en priorité l'humain. C'est une première barrière qu'on retrouve dans nos réunions régulièrement, que ce soit dans le public, dans le privé, entre scientifiques. Oui, mais attention, il ne faudrait quand même pas que ça porte atteinte à l'homme. Comme si étendre la considération allait en même temps nous retirer quelque chose. Historiquement, les droits de l'homme, ça a été un combat. Pendant longtemps, les enfants n'avaient pas de droits, les femmes n'avaient pas de droits, et même les humains, selon leur classe sociale, n'avaient pas de droits, de façon générale. Et puis, on a un philosophe, encore une fois, c'est pas lui tout seul, c'est un courant de pensée, mais on a un philosophe, Emmanuel Kant, qui en 1785 écrit le fondement de la métaphysique des mœurs, et il pose quelque chose d'extrêmement nouveau. Il nous dit « Les choses ont un prix. Les hommes ont une dignité. Les choses ont un prix. Les hommes ont une dignité. Laquelle, cette dignité, est sans degré ni parti. De sorte que tous les hommes sont dignes de la même dignité. » Et il ajoute « Ceci serait vrai même si Dieu n'existait pas. » Donc, peu importe que l'on soit croyant ou pas, ce qui est important de retenir, c'est que nous avons quelque chose d'intrinsèque à l'humanité qui est quelque chose à respecter en nous. Ce qu'on appelle la dignité, qui va donner les droits de l'homme, qui va donner nos codes de déontologie quand on est suivi par un médecin, qui vont faire qu'on doit le respect à l'être humain, quel qu'il soit. Des fois, on n'y arrive pas. Mais en tout cas, on est tous d'accord aujourd'hui, en tout cas en France, sur ce principe. Il nous a fallu créer un concept, celui de dignité, qui n'existait pas. La dignité existait, mais elle n'avait pas du tout ce sens-là, pour qu'on puisse avoir, au-dessus des lits d'hôpitaux, l'idée de dignité humaine à respecter. Ça ne se fait pas de soi. Aujourd'hui, on est en train de passer à un autre concept. La dignité n'était que pour l'humain. Et là, on parle d'une seule santé. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais en tout cas, il y a la même idée. Comment arriver à avoir un terme qui nous permette de dire chez le vivant, il y a quelque chose qui est intouchable, quelque chose qui, de fait, nécessite du respect. nous ne laissons pas de place aux autres visions. Je prends un petit exemple pour essayer de rendre concret la représentation qu'on peut s'en faire. Il y a des scientifiques qui sont amusés à voir combien pesaient les infrastructures, nos constructions, sur le monde, à l'échelle planétaire. Et ils sont aperçus que si on faisait ce calcul un peu fou, on occupait les infrastructures humaines, ça représente au minimum 50 kg par mètre carré de surface sur la Terre. Le poids de l'humanité empêche les autres êtres vivants de faire leur vie. C'est ce que Madame la maire disait juste avant moi. De la même manière, nous étions 3% de mammifères humains au pré-néolithique. Aujourd'hui, nous sommes l'inverse, 97%, il y avait 97% d'animaux sauvages. Aujourd'hui, nous sommes 97% d'humains et d'animaux appartenant aux humains, et 3% d'animaux sauvages qui sont complètement en déclin. Donc, une seule santé, c'est d'abord et avant tout le respect de la place laissée aux autres. Deuxième élément, les déterminants de santé. Comme il a été dit, il y en a 12 grands déterminants de santé, dont le socio-économique est le principal. Et l'idée d'une seule santé, c'est de dire que notre santé ne se joue pas uniquement dans les institutions de soins, elle se joue dans ce qu'on mange, ce qu'on boit, la qualité de notre air, toutes les choses les plus élémentaires qui constituent notre rapport au monde de façon générale. Donc ça, c'est notre cadre. Maintenant, qu'en est-il pour en sortir? Eh bien, nous n'avons pas de terme pour remplacer le terme de dignité humaine. Nous essayons avec ce concept une seule santé, qui a sa limite. Et je précise qu'une seule santé ne veut pas dire une seule vision de la santé, mais la prise en considération d'une pluralité de santé. Le premier truc qu'on vous dira quand on vous parlera d'une seule santé, c'est qu'il faut plus de pluridisciplinarité. Effectivement, il s'agit, quand on prend une décision publique, quand on prend une décision au travail, de mettre autour de la table des représentants de ces santés-là. Autrement dit, quand il y a une décision médicale, appelez un écologue pour qu'il vienne s'asseoir à la table. Appelez un vétérinaire. Dans le sens inverse, quand il y a un enjeu écologique, faire venir des intervenants qui soient soignants, qui soient médecins, et plus généralement des sciences sociales. Mais cette bonne initiative contient encore une limite. C'est que très souvent, quand on met tout le monde autour de la table, il y a des rapports symboliques qui restent extrêmement forts, et que la parole d'un écologue ne vaudra pas celle d'un médecin. Encore une fois, parce que tout de suite, on va se sentir attaqué si un écologue prend des décisions de santé publique. Or, l'écologue est un acteur de santé publique. Et donc, c'est le troisième point autour d'une seule santé, c'est que nous sommes tous acteurs de santé publique. Je prends des exemples concrets. Si vous êtes acheteur dans une entreprise ou dans une institution, donc publique ou privée, peu importe, vous êtes responsable des achats. Intégrer le paradigme une seule santé, c'est dire que vous êtes un acteur de la santé à l'endroit où vous vous trouvez, et que donc quand vous allez choisir de prendre ce pupitre, d'acheter ce pupitre pour le palais des congrès, vous allez vous poser la question de son origine, des perturbateurs endocriniens qu'il contient, de comment est-ce qu'on va pouvoir le recycler ou pas le recycler derrière, bref, des questions pratiques que vous pouvez toutes et tous vous poser, qu'on peut tous et toutes se poser, mais qu'on ne se pose pas à chaque fois. Donc, une seule santé, c'est un effort. Ce n'est pas une méthode. Vous ne pourrez pas avoir un carnet qui vous dira comment j'applique le paradigme une seule santé. Souvent, on me demande, mais comment on fait pour faire du une seule santé? On ne peut pas faire du une seule santé. En fait, ce qu'on fait, c'est à chaque fois, on se pose la question de sa responsabilité pour toutes les santé. Et quand on n'est pas sûr, on appelle un expert, ou un professionnel, ou un représentant des santé sur lesquelles on n'a pas trop d'éléments. Quand on est, je prends un exemple qu'on a à la ville de Marseille, et dans plein d'autres villes, c'est le cas aussi. Quand on est dans le domaine de la puériculture, quand on est assistante maternelle, quand on travaille dans une crèche, on n'a pas forcément la possibilité de choisir les achats qui vont être faits. C'est de l'achat public, il y a un marché qui est ouvert et on peut se retrouver avec des tas de perturbateurs endocriniens. Parce que dans une crèche, on nettoie en permanence, il y a des lessives en permanence et puis on a tendance à désinfecter tous les supports. Ces perturbateurs endocriniens, on le sait aujourd'hui, c'est archi prouvé, ils participent de l'augmentation de l'obésité chez l'enfant. Quand on est au contact de trop de désinfection, ça a des répercussions sur les hormones de l'enfant et par la suite, ça crée beaucoup une incidence plus forte sur l'obésité. Mais de façon générale, beaucoup d'autres problématiques, dont des cancers, toujours par effet cocktail, hein, c'est un croisement, c'est pas pour une cause, pour un déterminant de santé qu'on va avoir un cancer, c'est un mélange d'alimentation, de qualité de l'air, etc. Et donc, quelqu'un qui travaille dans une crèche peut décider que c'est terminé, on ne désinfectera plus, et qu'on va passer à la microfibre et au lavage à l'eau. Voilà, c'est très concret. Il y a même des crèches à Marseille qui sont en train de voir comment est-ce qu'on peut réensemencer par des probiotiques les milieux où les enfants sont en contact, pour qu'ils puissent remanger des bactéries, être en contact avec des bactéries qui sont bonnes pour leur organisme. Et donc, une seule santé, ça veut dire se dire qu'on a de la considération pour le vivant qui est invisible, les bactéries. C'est pousser le raisonnement jusque-là. Je vous donne un exemple qui est très local. Si on prend un exemple plus général, l'antibiorésistance, nous n'avons pas pensé le phénomène d'antibiorésistance de façon une seule santé. La résultante, c'est que nous avons mis des antibiotiques partout, beaucoup trop dans la médecine humaine, il aurait fallu mieux réguler, beaucoup trop dans les élevages, au début pour des hormones de croissance, et puis ensuite, en Europe, c'est plus le cas aujourd'hui, mais au moins à titre préventif pour pouvoir maintenir des niveaux d'élevage et de rendement qui soient conséquents. Le résultat, c'est que la mortalité par cause d'impossibilité de soins en raison du phénomène d'antibiorésistance devient une des premières problématiques de santé publique mondiale. On attend, alors les chiffres, je ne les ai pas en tête, mais je crois que je ne sais même plus combien c'est de millions de morts qui sont attendues dans les 25 ans à venir parce qu'on ne pourra plus soigner avec les antibiotiques. Ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est que Fleming, qui a découvert la pénicilline, l'avait dit. Il avait dit, attention, les bactéries, c'est vivant. Et tout ce qui est vivant veut vivre. Et tout ce qui veut vivre lutte quand on l'attaque un peu trop. Si on attaque de façon massive, si on a un rapport de prédation au vivant, où on se dit qu'il faut éradiquer, en général, ça aura des conséquences, parce qu'elles vont développer des résistances, et on ne pourra plus se soigner. Cette logique d'éradication, qu'on a beaucoup dans le domaine sanitaire, elle est l'opposé de ce qu'est une seule santé. Donc, pour clarifier ce qu'est une seule santé, c'est quand même important de le dire. Dernier exemple concret, sur le territoire, alors pas dans notre région, mais juste au-dessus, en Haute-Savoie, vous avez dû entendre parler de l'épisode des bouquetins du Bargy et de la gestion sanitaire qui en a été faite. On a découvert des cas de brucellose en Haute-Savoie, dans le Bargy, et on s'est dit, ça vient en partie, au moins assurément, de la faune sauvage, donc on va tuer les bouquetins qui font partie de l'écosystème pour essayer d'éviter une contamination à la brucellose, la brucellose n'étant pas une maladie mortelle si elle est prise en charge, mais qui affecte le système d'élevage, puisque ça se retrouve dans le lait et ça crée quand même des pathologies. La logique a été pas de risque pour la santé humaine, il faut éradiquer. En pensant pas de risque pour la santé humaine, on a oublié les autres santés, mais on a oublié aussi qu'en affectant les autres santés, on allait à terme impacter nécessairement la santé humaine. J'en ai fini pour les quelques exemples, mais pour vous montrer que ça se rattache véritablement au territoire. Alors, pour sortir de ce paradigme, une seule santé, je ne sais pas combien de temps j'ai encore, mais vous me direz. Pour sortir de ce paradigme, une seule santé, sortir des mécaniques dualistes dans lesquelles nous sommes, et donc cette peur que l'on a de laisser de la place à d'autres que nous, il y a des pensées qui qui ont été développées ces dernières années. Je vais en prendre une parce qu'elle est très significative pour nous autour d'une seule santé, ce sont les philosophies du care. Dans les années 90, deux autrices, Joanne Tronto, Carole Gilligan, posent les philosophies du care, l'éthique du care, qu'on appelle en traduction française encore « prendre soin ». Qu'est-ce qu'elles nous disent ? Tout d'abord, que prendre soin, on a tendance à penser que c'est quelque chose qui est dévolu à certaines personnes qui ont certaines qualités. Ah, vous êtes infirmière, mais c'est parce que vous aimez les autres, c'est sûr, vous avez le don pour prendre soin des autres. Ah, vous êtes aide-ménagère, mais vous aimez ranger la maison, vous avez le don pour ça. Vous êtes assistante maternelle, vous aimez les enfants, c'est certain. Et ce qu'elle pointe, ces philosophies du care, c'est que, ce faisant, on est en train de dénigrer en disant qu'il y aurait certaines personnes qui seraient faites pour le soin, l'importance de ce que c'est le soin dans une société. Prendre soin de tous, des vivants, des humains, des non-humains, a été, comment dire, laissé porter par les personnes les plus en précarité dans notre société. La philosophie du care dit « Le monde n'est pas habitable tel qu'il est. » Comme ça, spontanément, on ne peut pas habiter le monde. Il nous faut du soin, il faut du prendre soin pour qu'on puisse vivre. Parce que dès qu'on est, si on n'a pas quelqu'un qui prend soin de nous, on ne peut pas se développer. Quand on grandit, c'est pareil. Quand on vieillit, c'est pareil. Il faut quelqu'un pour nous nourrir, pour nous nettoyer. Il faut que des gens produisent notre alimentation. Il nous faut de l'affection. Il nous faut de l'hygiène. Tout ce que les autres vont faire pour nous. Or, plutôt que d'en prendre chacun une part, comme le voudrait le concept d'une seule santé, ce qui se met en place, c'est une délégation de ce qui est important pour que la société se soutienne, donc s'occuper des enfants, s'occuper des plus âgés, s'occuper des bébés, s'occuper du ménage, s'occuper de la rue à des gens qui n'ont pas tout à fait la possibilité que de choisir autre chose. Bien sûr, on peut choisir ses métiers, véritablement. Mais sociologiquement, on se rend compte que c'est rarement de l'ordre du véritable choix. On se retrouve avec des types de populations qui ont des revenus très bas et qui sont surtout maintenus dans une précarité. Pascale Molineau, sociologue contemporaine, on dit, observons un peu notre comportement. Dès que nous avons les moyens, dès que nous nous émancipons un petit peu financièrement, qu'est-ce qui se passe ? On prend une aide ménagère, une assistante maternelle, et ainsi de suite. On fait ramasser nos déchets par les autres, on fait nettoyer notre maison par les autres, et quand on vieillira, on se fera nettoyer par quelqu'un d'autre. Une seule santé, c'est aussi ça. C'est aussi se dire quelle est notre capacité à chacun d'entre nous pour laisser de la place dans notre vie de prendre soin et pas laisser le soin à ceux qui n'ont pas le choix que de l'assurer, pour nous. Au niveau du temps, combien de temps ? 5 minutes, merci. J'essaye de tenir ce temps-là. Bref, donc, premier élément dans ce qui nous permet concrètement de changer de paradigme, c'est l'idée qu'il va falloir faire un effort et que embrasser cette complexité, c'est forcément un travail. On ne peut pas juste se dire ce serait bien de prendre soin de la santé animale et de la santé végétale. Il va nécessairement falloir qu'on arrive à travailler sur nous-mêmes, il y a quelque chose de l'ordre du psychologique, de sortir du paradigme cartésien que j'évoquais tout à l'heure, pour arriver à penser différemment notre rapport à l'autre. On a un problème relationnel, notre problème écologique est un problème relationnel, ce n'est pas un problème pratique. On a les moyens de prendre soin. Le problème, c'est qu'on ne veut pas vraiment le faire. Deuxième et dernière chose pour conclure, sur la façon d'intégrer ce paradigme une seule santé. Prendre soin, premier point. Deuxième point, construire un nouveau récit autour du soin. Nous avons tendance à nous définir, C'est un signe. Nous avons tendance à nous définir en termes d'identité personnelle. Et donc, on en revient à Descartes. L'autonomie, c'est quelque chose qui est très valorisé. Quelque part, ne pas m'occuper de mes enfants pour pouvoir faire une brillante carrière, c'est valorisé socialement. Quand on me demande de me présenter, d'envoyer une petite biographie avant de faire une intervention, qu'est-ce que je vais mettre ? Ben, je vais mettre mon CV. Ça, c'est valorisé socialement. Je ne vais pas dire qu'est-ce que j'ai mangé. Je ne vais pas dire qui a pris soin de moi pour que je puisse me tenir devant vous. Je ne décris pas ma vie à l'aune de ce qui permet ma vie. Il y a des courants de philosophie qui nous disent qu'il y a vraiment un sujet ici. Paul Ricoeur parle d'identité narrative plutôt que d'identité individuelle. Comment est-ce que je me raconte ? Et quand je parle de moi, quand je me situe dans le monde, est-ce que je suis, dans mes souvenirs et dans ma construction, celle qui a tel ou tel CV, par exemple, ça pourrait être autre chose, ou telle généalogie, ou celle qui a grandi dans tel jardin, qui est née en région PACA, qui suis attachée à mon huile d'olive et aux oliviers, qui suis attachée à ceci, cela, qui va faire qu'on va réussir à faire monde commun et à arriver à protéger ce que l'on considère sur le territoire. Jean-Philippe Pierron parle d'éco-biographie, une capacité à se situer dans le monde en lien avec les autres vivants et non pas indépendamment. Je terminerai donc là-dessus pour pas trop déborder sur les interventions des autres intervenants. Juste une chose, peut-être pour conclure, en 1966, Georges Canguilhem disait déjà que la santé, c'est pouvoir tomber malade. Après la définition officielle de l'OMS, ce qu'il nous disait en fait, c'est que la résilience, c'est ça le sujet de la santé publique. C'est être capable d'avoir des moments dans sa vie où on tombe malade, où on est fragilisé, et pouvoir s'en remettre. Pouvoir s'en remettre pourquoi ? Parce qu'on a un environnement facilitant. Parce qu'on a des animaux, des végétaux, des milieux qui vont nous permettre, par notre alimentation, par l'air que l'on respire, de se remettre de pathologie. Et avant de rendre la parole, encore sur une dernière note philosophique, il y a une philosophe marquante, à mon sens, pour décrire une seule santé, c'est Hannah Arendt, qui nous dit que le mal, ce qui produit, ce qui est le plus nocif, le plus néfaste dans notre société, c'est quand on le rend banal. Vous savez, c'est quand on va à 16h05 au lieu de 16h dans un secrétariat qui ferme à 16h et qu'on dit « mais là, il est très important que je rende ce document ou qu'on me fasse signer telle ou telle chose administrative » et que la personne nous dit « non, c'est plus l'heure ». Et qu'on lui dit « mais quand même, là, c'est très très important. Ah non, le protocole, c'est comme ça ». Quand on est à la direction des achats, dire « ah, c'est le marché. Pendant 3 ans, on est lié à tel prestataire. On ne peut rien faire. Du coup, on attend. Et puis, 3 ans plus tard, il ne se sera rien passé, parce qu'on n'aura pas prévu la fin du contrat. » Ce que je veux vous dire par là, c'est que Hannah Arendt dit « quand on choisit le moindre mal, quand on se dit « bon, c'est trop complexe de faire des choses, donc prenons plus simple, choisir le moindre mal, c'est quand même choisir le mal. » Et on oublie ça souvent. Donc, il ne s'agit pas d'être militant, il ne s'agit pas de passer ses week-ends dans des associations ou dans des manifestations, on n'y arrivera pas tous. Ça représente une toute petite partie de la population, les gens qui sont capables d'aller lever des barrières pour agir sur ces causes communes qu'est la santé. De la même manière que des gens qui veulent impacter négativement, ils sont très peu nombreux, ça existe. Des gens qui se disent « après moi le déluge, je m'en moque des autres », ça existe. Mais ils ne sont pas beaucoup. Le problème, c'est le reste, c'est nous tous. C'est les 90% de gens qui se disent « j'aimerais, mais je ne sais pas trop comment faire ». Et donc, ce « je ne sais pas trop comment faire », c'est se sentir acteur de la santé au cœur de nos métiers, au quotidien, et enfin, savoir dire non. Plutôt que de pouvoir s'engager sur un projet qu'il faudrait qu'on porte tout seul, et c'est parfois pas facile, plutôt se dire « je me mets dans une posture de refus ». Quand on me dit qu'il n'y a pas de tri possible, eh bien je refuse de mettre tout dans la même poubelle et je crée moi-même une autre poubelle à côté. quand on me dit que c'est pas possible de supprimer les perturbateurs endocriniens dans une crèche, et ben je me dis si, je vais utiliser l'eau chaude moi. Je vais m'opposer par de l'action en simplement refusant l'organisation générale quand elle me semble affecter le bien commun, une seule santé. Je vous remercie beaucoup.
Merci à vous. Merci Léonie Darobiev, si vous voulez bien nous rejoindre.